France Inter, le 18-20.
Irma est passée donc et José heureusement a évité les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Mais les ouragans, on le sait, il y en aura d'autres, des scènes de désolation, de destruction. On en reverra, comme on en avait d'ailleurs hélas déjà vu, mais on sait aujourd'hui que les phénomènes sont plus forts et plus destructeurs. Alors et maintenant, comment reconstruire avec de nouvelles normes? Faut-il abandonner une partie des territoires lorsqu'ils sont durablement touchés? Comment, pourquoi pas, faire appliquer une loi littorale plus contraignante? Comment les assurances vont-elles rembourser? Jusqu'à quand, dans ces lieux, toujours sur la route d'ouragan de plus en plus puissant, peut-on mieux prévoir, mieux anticiper? Tout ça, est-ce vraiment possible? Ce que nous a appris Irma, ce qu'elle nous oblige à repenser ce qu'elle laisse derrière elle, c'est le téléphone sonne ce soir.
Fabienne Sintès. Le téléphone sonne.
Elivio, vous êtes le premier, je vous souhaite le bonsoir, bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Eh bien très bien, je vous entends très bien, allez-y.
Voilà, parce que je vous appelle de la Martinique.
D'accord.
D'abord, je vous remercie pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Et dans le fait, j'avais simplement une question, hein, c'est que compte tenu du réchauffement climatique, de la situation climatique actuelle, est-ce qu'on peut raisonnablement penser, sans être alarmiste, que chaque année, on aurait ce type de phénomène? Parce que regardez, si on regarde bien Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ils vont prendre des années à s'en remettre. Alors, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que chaque année, on aurait ce type de phénomène? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a commencé à réfléchir à savoir comment modifier complètement notre façon de fonctionner?
Eh ben merci beaucoup Livio pour votre question. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Martin qui sont dans votre île en ce moment à la Guadeloupe. Pour vous répondre, Livio, Axelle Davezac est la directrice générale de la Fondation de France qui coordonne les dons en direction des Antilles. Philippe Lévesque également, directeur général de l'ONG Care France. Corinne Lepage qui est restée avec nous, avocate, ancienne ministre de l'Environnement et présidente de Cap 21. Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter, est là également. Et puis on attend, j'espère qu'on arrivera à la voir au téléphone, Arnaud Schneweis qui est délégué général de la Fédération française de l'assurance. Et Dieu sait que les assurances, dans ces moments-là, c'est important. Un mot pour répondre à Livio, Corinne Lepage. Sur la première question d'abord, annuellement, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais fréquemment, des phénomènes de ce genre-là, maintenant on sait que oui, ça va revenir.
C'est-à-dire qu'un des effets du dérèglement climatique, c'est d'avoir des phénomènes exceptionnels, entre guillemets, et qui le sont de moins en moins, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. C'est-à-dire que quand vous aviez une occurrence, je lisais pour Harvey, il y avait une occurrence de un risque sur 100 il y a quelques années, enfin maintenant c'est un risque sur 100 et dans quelques années ce sera un risque sur 5. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de phénomènes excessivement graves. Et ils vont être de plus en plus graves. Vous parliez des assurances, on va y revenir, mais quand vous voyez le coût dépensé par les assurances dans les années 80, et le coût dépensé par les assurances dans les années 2010 ou 2015, c'est facteur 10 ou facteur 15. Ça a augmenté dans des proportions absolument colossales.
Et la question qu'on posera d'ailleurs est de savoir effectivement jusqu'à quel point, à un moment, on réussira toujours à s'assurer finalement dans ces endroits-là.
Il y a des endroits où on ne pourra plus s'assurer.
Voilà, Philippe Lévesque, je vous vois faire non avec la tête. On ne va pas parler pour l'assureur, mais enfin, allez-y.
Non, mais moi, je travaille pour une ONG de terrain qui est sur place à Madagascar, dans l'océan Indien, et dans les îles françaises qui sont là-bas, puis aussi à Cuba ou à Haïti. Les gens ne sont pas assurés, ou extrêmement peu. Et dans des populations qui sont frappées, hélas, chez nous, à Saint-Martin, une bonne partie ne le sont pas non plus. Donc la question se pose évidemment déjà.
On imagine que le diable se mord la queue, puisque si les premiums augmentent, c'est rarement les plus pauvres qui peuvent payer une assurance plus chère.
Mais in fine, c'est l'État, donc l'autorité nationale qui paye. Ce n'est pas la compagnie d'assurance. Il y a une réassurance, etc. Donc c'est la capacité de nos concitoyens, la nôtre, la solidarité nationale internationale, à faire face.
Axelle Davezac, il y avait une autre question derrière celle de Livio qui disait est-ce qu'on réfléchit à cet après-là, à comment on construit puisqu'on sait qu'il y a cette fréquence-là? Qu'est-ce qu'on apprend au fur et à mesure en fait? Parce que hélas, il y a eu Hugo en Guadeloupe, il y a eu Loïs en 95 à Saint-Martin, on a appris des choses, on apprend encore ou pas?
Alors, je ne sais pas si on apprend, mais en tout cas on tient compte et bien évidemment quand on intervient après ce genre de catastrophe, que ce soit alors pour la Fondation de France, en Haïti, après le tsunami et aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, malheureusement, dans les Antilles françaises, on tient compte de ce qui s'est passé et donc ce qu'on reconstruit, les habitations qu'on reconstruit, on les reconstruit différemment. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ça résiste mieux à la prochaine catastrophe. Alors, on ne résout pas tout, bien évidemment, mais il y a quand même, malgré tout, l'apprentissage auprès des populations locales aussi sur la manière de construire leurs habitats. On fait des modèles, en fait, on construit ce qu'on appelle des maisons modèles pour que, véritablement, ils puissent ensuite s'en servir pour après.
Est-ce que ça veut dire aussi que le provisoire, qui a longtemps été la norme dans ce genre de situation-là, les préfabriqués, les cabanes, est-ce que tout ça est quasiment proscrit ou en tout cas dans la mesure du possible ?
Alors très clairement, la Fondation de France déjà en Haïti a refusé de faire du semi-provisoire.
C'est pour ça que je vous pose la question.
D'une part parce que c'est relativement cher et tout l'argent qu'on met dans ce semi-provisoire, on ne le mettra pas dans du définitif et de la vraie construction durable et mieux adaptée. Et ensuite, on a observé dans certains cas que ce semi-provisoire devenait du durable et que malheureusement, du coup, les gens ont recréé des sortes de bidonvilles. Donc, c'est absolument dramatique. Donc, c'est à proscrire.
Sandy Dauphin, un mot.
Oui, on a vu des vents à plus de 300 km/h. Donc, on se dit, qu'est-ce qui résiste à des vents aussi puissants ? Donc, oui, on peut construire des maisons en béton, mais ça a un coût et c'est toute la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt, est-ce que le gouvernement français est prêt à construire des logements qui vont coûter beaucoup plus cher ?
Et la question suivante vient de Gilles et c'est de Martinique qui nous appelle. Bonsoir Gilles, bonjour à vous plutôt.
Oui, bonsoir à vous.
Allez-y,
oui,
on vous écoute.
Écoutez, ma question elle est simple, c'est que on savait que nous en Martinique on surveillait ça depuis une semaine, Irma. Un début, il était infléchi vers le sud, il allait nous passer dessus, ensuite il est remonté. Bon, donc tout le monde était au courant que ce cyclone allait arriver sur les Antilles. Pourquoi il n'y a pas été... Alors, c'est structurel. On n'avait peut-être pas le temps, on n'avait peut-être pas la volonté. Les Hollandais, il semblerait, d'après les réseaux sociaux, je le précise, que les Hollandais aient anticipé plus en évitant les pillages, en mettant des camions, de la structure matérielle pour subvenir aux premiers besoins. Donc, la question que je voudrais vraiment poser, les réactions qu'on entend aujourd'hui, c'est... Faut-il abandonner ces territoires ? Non, en aucun cas. Il faut juste les prédisposer à de tels événements. Mais cet événement n'arrivera pas tous les ans. Souvenez-vous, Matthews a ravagé Haïti l'année dernière et a fait une tempête sur la Martinique. Donc, on ne peut pas abandonner des territoires quand on sait qu'ils vont être sujets à des aléas. Est-ce que vous allez abandonner une région comme Naples parce qu'il y a un volcan ou le Japon parce qu'il y a des tremblements de terre? Non, l'anticipation, c'est reconstruire d'une manière durable. La préfecture n'aurait pas dû pouvoir s'effondrer, franchement. Alors, bon, voilà, tout est à prévoir. Mais en plus dur, en plus gros, en plus costaud. Et ces territoires font partie de la France. Même s'ils ont un statut à part politique, ce sont des territoires français. Voilà. Alors, au-delà des polémiques, ma question, c'est est-ce que, au-delà de dire, comme, je sais pas, M. Hulot a dit, faut-il abandonner ces territoires ? Non. Il faut les protéger, les surveiller, et anticiper ce genre de phénomène qui ne se produira pas tous les ans sur ce même territoire. L'année prochaine sera peut-être nous. Ou Barbade, ou Sainte-Lucie.
Gilles, on a compris le sens de votre question. Gilles, Philippe Lévesque, vous voyez opiner du chef pendant qu'il parlait, Gilles.
Mais moi, j'opine sur la préparation, ça c'est très clair. C'est pas normal du tout, mais les enquêtes ensuite... D'abord, il faut répondre aux besoins de nos compatriotes tout de suite, et puis après, on verra. Il faudra tirer les leçons de l'effondrement, en effet, de la préfecture, de la gendarmerie, etc. Ça, c'est absolument pas normal. Quant aux habitations, on ne pourra pas tout transformer, c'est clair aussi. Donc, il y a toujours des cases ici et là-bas. Et puis, c'est bien pire encore dans les tout petits États... autour des îles rattachées à des très grandes puissances européennes ou américaines.
Axel Davezac, je voudrais qu'on torde le cou à Nuit-des-Russies ou pas. Est-ce que ça s'est mieux passé côté hollandais sur l'île de Saint-Martin, oui ou non ?
Non, je crois qu'il faut être extrêmement méfiant et vigilant sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a des informations notamment sur les pillages qui ont été démentis, c'est-à-dire qu'il y a également eu des pillages... malheureusement, si je puis dire, du côté néerlandais. Donc il faut être vraiment extrêmement vigilant sur tout ce qu'on lit en ce moment.
Mais moi, j'étais en lien avec mes collègues néerlandais pour la réponse de Kerr sur la zone. Et ils avaient l'information extrêmement inverse. Ils nous disaient « Oh, vous, les Français, vous êtes mieux préparés, vous avez mieux réagi que nous, les Néerlandais. » Donc, il y a de la fake news de tous les côtés.
Corinne Lepage, quand on parle d'abandonner les territoires, effectivement, je ne vais pas me faire le porte-parole de ceux qui en parlent, mais il ne s'agit pas d'abandonner l'île, il s'agit peut-être de se dire « Alors, il y a des endroits où on ne doit plus remettre des habitations. »
Ça, c'est possible.
Alors, voilà, est-ce que ça c'est possible, possible.
Ben oui, ça, c'est possible. On peut construire en hauteur. On peut construire effectivement plus dur, mais derrière cela, vous avez une question d'argent. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens à Saint-Barthélemy, on sait très bien qu'il y a des très belles maisons qui ont très bien résisté.
Bien sûr.
Et puis, celles qui étaient en bas, qui étaient beaucoup plus modestes, ben, c'est là précisément où ça n'a pas résisté du tout.
Et comment obliger, demander aux plus pauvres de ne pas se réinstaller là où ils étaient, c'est-à-dire au plus près de la mer? Et c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils vivent.
Ben oui, mais je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver précisément. Alors, soit dans la solidarité nationale, dans le type de construction, mais ça coûte très cher. Je ne suis pas sûre qu'on ait la possibilité, peut-être même la volonté de le faire. Peut-être essayer de distinguer entre les constructions et puis la vie. Je veux dire par là les activités. Vous savez, dans ce type de sujet, il faut toujours distinguer ce qui est la sauvegarde de la vie humaine et ce qui est la sauvegarde des biens. C'est pas la même chose. Première chose, c'est de sauvegarder la vie humaine. Donc, il faut avoir des solutions pour que les gens puissent se réfugier dans des bâtiments dont on est à peu près certain qu'ils bougeront pas.
Et le fait que la préfecture, voilà, d'ailleurs, soit tombée est quand même assez symptomatique.
C'est symbolique. Puis ensuite, effectivement, il y a la question des biens, qui est un deuxième sujet qui est très important, mais qui est moins grave que les vies humaines. Parce que il y a beaucoup de critiques. J'observe quand même qu'en termes de pertes humaines, c'est catastrophique quand il y a une vie qui disparaît. Mais enfin, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ça ne l'a été.
Axel Davozac, je vous voyais réclamer la parole, pardon, je vous écoute.
Oui, sur la question effectivement d'obliger ou non les gens à déménager, ça c'est le travail notamment des ONG, mais comme la Fondation de France le fait sur le terrain, où les travailleurs sociaux vont aller, ça y est, on démarre là, nous, depuis aujourd'hui, aller à la rencontre des populations et à comprendre, à faire de la pédagogie, mais en même temps on n'obligera personne. Voilà, donc c'est vraiment un travail... Alors, en même temps, il faut rester extrêmement modeste parce que nous ne sommes pas à la mesure de l'enjeu ni des besoins, mais tout ce qu'on pourra faire mieux, on le fera.
Je voudrais qu'on écoute Eric qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonsoir Eric, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Ma question, elle était en lien avec ce dont vous parlez, c'est-à-dire comment on peut exiger de personnes qui, pour 60%, sont en minima sociaux, qui fassent des constructions dures et anticycloniques. En plus, je trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie, parce que les maisons, c'est bien d'envisager de les construire aujourd'hui, mais ça aurait été bien qu'elles aient été construites avant, parce que ces gens habitaient là avant, les risques étaient déjà établis, et ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle de ce type de risque. Réagir après, mais c'est quand même réagir.
Je voudrais rappeler quelques chiffres, hein. Les 30% de chômage dans une île comme Saint-Martin, par exemple. Effectivement, on n'est pas à Saint-Barthélemy, comme vous le disiez. On est dans un endroit qui est très particulier, Philippe Lévesque. Et il a raison, Eric. Comment on fait quand on est aux minima sociaux pour ces gens-là?
Bien sûr qu'on ne peut pas le faire. Donc, Madame Lepage a donné une partie de la réponse. Ce sont les bâtiments publics qui permettent d'accueillir. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à Cuba, ça se passe à peu près correctement. C'est un État, certes, très fort, mais qui amène une évacuation dans des zones qui sont préparées.
Enfin, il y a eu plus de morts à Cuba, là, à l'instant, au passage d'Irma, qu'il y en a eu à Saint-Martin. J'allais dire heureusement, ce qui dépasse évidemment ma pensée,
ce
n'est pas l'idée.
Dire. Et on voit le niveau de structuration des États. Il y en aura probablement encore plus en Haïti, dans des zones qui sont extrêmement reculées, où on ne sait pas encore aujourd'hui, ou dans des petites îles très pauvres. Donc on ne peut pas. Il y a des problèmes de cadastre aussi, partout, donc de droit. Les gens ont fait des propriétés dans des lieux où ils n'ont pas forcément ce droit de propriété. Donc c'est un vrai, vrai gros sujet dans la plupart des îles françaises, mais néerlandaises et américaines aussi. Donc ce n'est pas réglable. Ce qui compte, ce sont les grands bâtiments publics.
Je voudrais mettre les pieds dans le plat quand même sur cette histoire de préfecture qui s'est écroulée. Qu'est-ce que ça dit quand un bâtiment public comme une préfecture tombe? Autant que je sache, d'ailleurs, on a été du coup se réfugier dans l'ancienne préfecture, ce qui est quand même un comble. Est-ce que ça parle aussi de ce que nous faisons, nous, de ces territoires, Corinne Lepage, de ce qu'on abandonne ou n'abandonne pas, ou en tout cas de la demi-mesure que l'on fait, nous, pour construire une préfecture qui s'écroule au premier ouragan? Gros ouragan, mais écroulé quand même.
Vous savez, la question qu'on se pose toujours, que je me pose personnellement toujours, c'est si ça avait été fait en métropole, est-ce qu'on aurait fait pareil? Alors, j'ai pas la réponse à la question, mais pour moi, c'est la question. À partir du moment où nous avons nos outre-mer, avec la richesse qu'elles représentent, que nous faisons tout ce que nous pouvons pour les garder, y compris pour ceux qui voudraient partir, ça veut dire que nos concitoyens doivent être traités exactement comme les métropolitains. Je suis désolée de le dire, c'est quelque chose qui fâche, mais c'est une réalité.
Et on voit là une autre question qui fâche, et c'est celle de Robert. Bonsoir Robert.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame, pardon. Oui, question incongrue, déplacée peut-être, mais enfin courte. Mais même si je comprends le désarroi, il faut reconstruire les maisons, surtout par exemple à Saint-Barth peut-être. Mais pourquoi ne pas reconstruire aussi la fiscalité à Saint-Martin et à Saint-Barth, surtout? Bon, les habitants, on les a vus à la télévision, hein, parlent donc d'abandon de la part de l'État et demandent à corps et à cri la solidarité, c'est-à-dire les fonds publics Donc l'impôt hexagonal, entre autres, c'est bien beau de demander, si vous voulez, la solidarité nationale via l'impôt, quand soi-même, on se soustrait un petit peu à l'impôt. Vous comprenez ?
Ah oui, alors je comprends votre question parce que vous n'êtes pas le seul à la poser, Robert. On va dire les choses clairement, Philippe Lévesque. D'abord, effectivement, les 9000 résidents officiels de Saint-Barthélemy ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est ça le chiffre ?
Je ne sais pas, mais c'est injuste. Il y a évidemment une poignée de milliardaires à Saint-Barthélemy. La majorité de la population vit fort modestement. Et à Saint-Martin comme à Saint-Barth et dans les autres îles, il y a énormément de gens, on vient de l'entendre, qui sont extrêmement pauvres.
Après, ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de défiscalisation qui a été faite et qui a permis, effectivement...
Alors, voilà, la question de l'injustice fiscale sur les yachts ou autres est un autre sujet qui convient de traiter. D'ailleurs, ceux-là, je crois qu'ils ne sont même pas assurés. Et donc, finalement, il y a quelque part une justice éventuelle. Mais il faut traiter cette question de la fiscalité. Et puis, il faut penser aussi aux populations qui n'ont rien du tout. Et il y a beaucoup d'immigrants illégaux à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les autres îles. Et ceux-là, ils ont rien du tout. Et je pense que le bilan humain risque de s'alourdir à ce moment-là.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Estelle Davezac. Après, je voudrais qu'on parle à Arnaud Schneeweis qui vient de nous rejoindre.
Oui, juste rapidement sur la préfecture qui s'effondre. Je crois aussi que on paye le manque de prise de conscience aussi globale dans la population sur les enjeux du développement durable, du réchauffement climatique, et que malheureusement, on peut espérer que cette catastrophe fera comprendre ceux qui sont chargés de construire les préfectures et autres, qu'il faut vraiment intégrer systématiquement toutes ces questions.
Ah, l'État fait des économies et croit pouvoir faire des économies. En fait, ça va coûter beaucoup plus cher, évidemment, si on l'avait construit la première fois convenablement.
Et ce qui nous ramène à la question que je posais au début, 1995, Loïs, à Saint-Martin aussi, est-ce que quand même il s'est passé des choses entre 1995 et aujourd'hui? En gros, est-ce que le Saint-Martin de 1995, voyant passer Irma, serait dans un état pire? Je ne sais pas si on peut faire pire que 95% de destruction. Est-ce qu'on a vraiment appris entre ces deux épisodes ou pas? Parce qu'en creux, est-ce qu'on va apprendre d'Irma? C'est ça que ça veut dire.
On a appris en prévention.
Oui.
Ça, c'est clair. On citait les vies humaines perdues. Les vies humaines perdues, c'est terrible. Il aurait pu y en avoir mille fois plus.
Oui. Bonsoir, Arnaud Schneeweis.
Bonsoir.
Merci de nous retrouver sur France Inter. Il y a quelques questions qui sont en train de tomber, notamment sur les assurances. Et du coup, on va vous les poser les unes après les autres. Notamment d'abord, qu'est-ce qui se passe? On a bien compris que les gens qui étaient assurés, tant mieux, sont assurés et pourront repartir face à ça. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne le sont pas, ce qui est une majorité des habitants de Saint-Martin, par exemple? Est-ce que ça ne vous regarde pas du tout, en quelque sorte?
Alors, on est très concerné par le sort de toutes les populations, mais nous sommes dans l'accompagnement des pouvoirs publics. Donc, la profession de l'assurance est complètement mobilisée. On a fait déjà des annonces. On a annoncé des gestes, bien sûr, sur les délais, sur les moyens de preuve.
Donc, délai, pardonnez-moi, voilà, ça veut dire quoi?
Normalement, il y a un délai de 10 jours pour faire sa déclaration, compte tenu des circonstances. Bon, les assureurs seront bien sûr très bienveillants. De même, normalement, il faut prouver les dégâts, les dégradations par des factures, là tout moyen de preuve, d'anciennes photos, seront admis. Et il faut bien dire qu'il faut sauvegarder tout ce qu'on peut, prendre des photos si on le peut avec son smartphone, et puis ce seront des moyens de preuve admis par les assureurs. Ouais. Donc on est complètement mobilisé. Maintenant, on est mobilisé forcément au service de nos assurés. Et donc il n'y a pas de miracle possible de notre part. Après, on est en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et la solidarité nationale doit jouer. Mais notre but, c'est bien sûr de tenir la promesse qu'on a faite aux assurés, c'est qu'on sera à leur côté en cas de coup dur.
Monsieur Schneeweis, il y avait une question d'une auditrice qui, aussi simple que ça, sur le hashtag, le mot dièse, pardon, c'est ce que je cherchais, Telson, sauf que moi j'ai plus de boîte aux lettres. Non mais c'est une question sérieuse.
Oui, mais on est parfaitement conscient des difficultés de communication et des difficultés d'accès aux îles. D'ailleurs, nos bureaux, les bureaux de nos assureurs sont détruits également, de nos assureurs, de nos courtiers, etc. Donc,
mais vous êtes assuré, non? Pardon.
Et oui, on est parfaitement conscient de l'extrême difficulté dans laquelle sont les gens. Voilà. Donc, le premier temps dans lequel nous sommes, c'est le temps des secours. Les assureurs viennent dans un second temps, en accompagnement des pouvoirs publics, en étroite coordination. On est très heureux de voir qu'un délégué interministériel a été nommé. Bernard Spitz, le président de notre Fédération française de l'assurance, sera du voyage du président de la République. Et nous allons tout faire pour venir en aide aux assurés. Encore faut-il pouvoir accéder aux îles, et de ce point de vue-là, on est dans la même situation que tout le monde. Pour le moment, ni les assureurs ni les experts n'ont accès.
Monsieur Schneeweis, est-ce que, très honnêtement, est-ce qu'entre vous, assureurs, vous vous posez la question, doit-on, peut-on continuer à assurer, alors je vais mettre ça au sens très large, l'arc Caraïbe, en quelque sorte. Est-ce que, sincèrement, vous vous dites à un moment, des phénomènes comme ça, il y en aura d'autres, à chaque fois ça nous coûtera de plus en plus cher, il faut même changer les systèmes d'assurance. Est-ce que votre réflexion va jusque-là ?
Non, la réponse est non. Non, bien sûr qu'on entend continuer à être présent sur tous les territoires de la République. Après, ça pose des questions que vous évoquiez avec les invités sur le plateau, de la résilience. Mm-hmm. Ça peut poser ce type de questions, de la manière dont on construit. Donc il y a tout un débat qui s'appelle « Build Back Better hein, »,« Construisons mieux », et notamment par rapport à ces événements extrêmes, quelles sont les meilleures méthodes de construction et éventuellement de reconstruction. Et là, il faut avoir un débat avec les architectes, les artisans pour mieux reconstruire.
Restez avec nous, Arnaud Schneeweis.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et on écoute Maïtena qui nous appelle. Bonsoir Maïtena.
Bonsoir. Donc je vous appelle de la Guadeloupe. Mm-hmm. Et en fait je suis un peu... je suis très très étonnée par la façon dont la crise n'a pas été anticipée à Saint-Martin. Nous en Guadeloupe on était déjà... moi j'ai l'impression, le sentiment qu'on était beaucoup plus inquiets que déjà les Saint-Martinois sur le cyclone. Et surtout, je comprends pas que les pouvoirs publics français n'aient pas déjà fait rapatrier, par exemple, les légionnaires de Guyane ou ce genre de choses. On avait, en Guadeloupe, déjà eu l'expérience du cyclone Hugo. On savait qu'un cyclone était très destructeur, enfin, pouvait être très destructeur. Irma, on l'attendait comme plus fort qu'Hugo et rien n'a été anticipé, quoi.
Rien n'a été anticipé, c'est une question qui revient souvent, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est bien sûr probablement compliqué. Ce que dit Maïtena en creux aussi, c'est qu'on a vu les alertes augmenter, catégorie 3, catégorie 4, mm-hmm. catégorie 5. À ce moment-là, Corinne Lepage, est-ce que c'est trop tard? Quand on sait déjà que les vents vont souffler plus fort que ce qu'on imaginait.
Tout dépend du travail que vous avez fait avant. On a tous vu qu'on passait en alerte violette. Mm-hmm. Bon, ça veut dire donc qu'il y a un plan qui correspond à ce qu'est l'alerte violette. Un plan, ça peut être quelque chose d'effectivement extrêmement précis, avec beaucoup de moyens, et qui donc dénote un effort considérable et de conception et d'investissement dans la prévention. Et puis ça peut être un chiffon de papier qui dit pas grand-chose. Donc moi, là, en l'état, je suis pas capable de dire quel était l'état de ce plan violette pour Saint-Martin, qu'est-ce qu'il y avait dedans, j'en sais rien. Vous voyez, mais j'ai la comparaison, par exemple, avec ce qu'on a vécu de manière très différente à la Faute-sur-Mer quand il y a eu Xynthia il y a quelques années.
Quand on parlait d'abandon de territoire, effectivement, on a dû abandonner une partie de territoire autour de la Faute-sur-Mer, par exemple.
Voilà. À Xynthia, le maire a été condamné parce qu'il avait refusé pendant 10 ans de mettre en place un plan de prévention comme l'État le lui demandait. Voilà, donc je pense que c'est là où il faut réfléchir. Quand je parlais tout à l'heure des bâtiments durs, ça me paraît une évidence qui est pour la population qui vit dans des bâtiments dont on sait qu'ils pourront probablement pas être résistants à ce type de cyclone, anticyclonique, mais qu'ils aient un endroit pour aller et vivre le temps nécessaire pour que ça passe.
La question suivante, elle est de Pierre. Bonsoir Pierre, bienvenue sur Inter.
Eh bien, bonsoir, merci de m'accepter à l'antenne.
Mais je vous en prie.
Pour une question concernant le fait que j'ai peu entendu parler, ni dans les radios, ni dans la presse, sauf peut-être tout à l'heure, en début d'émission, vous en avez dit quelques mots, mais très brièvement, sur le fait que l'île de Saint-Martin étant partagée en souveraineté au sud par la Hollande, sous souveraineté hollandaise et au nord française, on ne parle pas du tout en France, c'est un peu une sorte de nombrilisme franco-français, de ce qui se passe dans la partie hollandaise, et surtout s'il s'est établi une coopération, vu la globalité du sinistre, surtout entre deux nations qui sont toutes les deux dans l'Union européenne, et sur quel plan cette coopération intervient-elle ou pas?
Et ben on va poser la question autour de nous. Merci beaucoup Pierre Axel Davezac. Est-ce qu'on travaille bien avec les Hollandais? Est-ce que vous, par exemple, à la Fondation de France, vous échangez des informations avec eux? Est-ce que vous passez du côté hollandais pour voir ce dont ils ont besoin? Ça se passe comment?
Alors, pas encore. C'est-à-dire que, en tout cas pour la Fondation de France, c'est-à-dire que nous, la priorité, c'était d'arriver sur le terrain, déjà, et d'identifier toutes les associations et relais locaux avec lesquels on pouvait travailler. Je pense que cette coopération, si elle doit se faire, mais attention, on n'a pas la même langue, ce qui va compliquer beaucoup la prise en charge, puisque la prise en charge des habitants pourrait être en partie commune. Je pense notamment à toute l'aide psychologique qu'il va falloir apporter. On aura ce type de barrière-là. Mais nous sommes donc lundi soir, à ce jour, on n'a pas encore nous pris de contact pour notre part.
Philippe Lévesque, vous qui dirigez l'ONG Care France, vous avez peut-être déjà eu affaire à des doubles langues et des doubles pays à l'intérieur d'un même territoire un peu petit. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Oui, ça arrive régulièrement. Alors pour chez Care, la priorité c'est d'abord Haïti et Cuba. Il y a beaucoup plus de dégâts. Néanmoins, je parle à mes collègues néerlandais tous les jours pour voir ce qu'ils vont faire. Donc, il y a déjà des échanges entre les militaires, mais surtout sur des aspects techniques, hein, déblayer des routes, etc., pour remettre en place des systèmes, et pour l'eau potable aussi.
Mais ça veut dire qu'on s'échange, par exemple, lorsque les vivres finiront par arriver en grand nombre, puisqu'il y a des frégates qui sont parties, etc. Oui. On s'échange,
on s'échange on se prête entre les vivres, on s'échange entre armées, on s'échange entre ONG, et on se passe des informations et des stocks. Donc, ça se fait assez bien. Beaucoup de gens parlent créole,
oui.
Un créole de la région. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Donc il ne suffira pas de parler le beau néerlandais ou du beau français.
Il y a une langue commune, vous voyez. Il y a des créoles.
Oui, des. Et donc ça va compliquer. Et j'insistais tout à l'heure sur les illégaux. Il y a davantage d'immigrants illégaux dans la partie néerlandaise que dans la partie française. Donc c'est un vrai sujet là-bas pour eux. Et là, il y aura des coopérations aussi.
Merci beaucoup.
Le taux de chômage dans la partie hollandaise est bien inférieur au taux de chômage dans la partie française.
Pas les mêmes populations.
Non, et ni la même forme de tourisme, du coup, d'ailleurs, entre le côté français et le côté néerlandais, dans une île finalement aussi petite que l'île de Saint-Martin. Jean nous appelle au 01 45 24 7000. Jean, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Merci à votre plateau et merci à cette très bonne émission de France Inter.
Merci à vous.
Je voudrais poser une question aux spécialistes, disons assureurs, que vous avez parmi vous, et qui disait tout à l'heure, et cela m'a quand même, disons, interloqué, il disait tout à l'heure que des personnes pour indemnisation devaient fournir des papiers, des photos. Alors moi, la question que je poserais à ce monsieur, c'est comment peut-il demander à des personnes qui ont tout perdu, la maison, leur effet, se retrouvant dans la rue, dans une nudité complète, pratiquement, comment ces gens assurés vont-ils pouvoir proposer aux assureurs avant indemnisation des photos, des factures?
Jean, on a compris votre question et Arnaud Schneeweis vous a entendu, délégué général de la Fédération française de l'assurance. C'est une question qui revient souvent, forcément, monsieur Schneeweis. Qu'est-ce qu'on répond à ce monsieur?
Voilà. Alors le monsieur va répondre. Écoutez, comme je l'ai dit, les assureurs vont faire preuve d'une très grande bienveillance. On est là pour être aux côtés de nos assurés. C'est la promesse que l'on a faite au moment de la souscription du contrat et qu'on entend bien tenir. La raison d'être des assureurs, c'est d'être présent en cas de coup dur. Donc on n'est pas là pour casser les pieds de nos assurés, pour multiplier les tracasseries. On est là au contraire pour les aider et pour aider dans les meilleurs délais. C'est pour ça que j'invite, quand ce sera possible, tous les sinistrés à prendre contact avec leur assureur dans les meilleurs délais, parce que l'assureur, il peut fournir très vite des aides financières, des avances, il peut fournir de l'aide psychologique, il peut s'occuper du relogement des personnes concernées. Donc, je sais bien les problèmes de communication aujourd'hui, mais dès que possible, prenez contact avec votre assureur, il peut vous fournir de l'aide dans la mesure de ses moyens et des capacités à accéder aux îles, comme on vient de le dire. Donc voilà, par rapport ensuite aux modalités de preuve, il peut y avoir des anciennes photos qui ont été stockées sur les réseaux sociaux. On fera preuve d'une très grande flexibilité, d'une très grande bienveillance. On n'est pas du tout là pour casser les pieds des gens, on est là pour les aider à se reconstruire.
Arnaud Schneeweis, merci beaucoup pour cette réponse. Tiens, voilà une question. Les milliardaires vont-ils aider à payer les reconstructions? Saint-Barth, c'est sur franceinter.fr. Tout le monde en avait plein la bouche de cette île de milliardaires et autres membres du showbiz et des médias. Mais qu'en est-il de la générosité de ces milliardaires dont les résidences n'ont sûrement pas été touchées? Et en effet, les résidences du milliardaire, elles n'ont pas été touchées. Elle est légitime, cette question, hein? Est-ce qu'on en a entendu beaucoup, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui habitent Saint-Barth? Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils disent?
J'ai entendu dire que Johnny Hallyday avait mis, sa maison à disposition des sinistrés pour que les gens puissent se réfugier, ce qui est bien.
On a vu aussi beaucoup de villas de luxe être endommagées, pas non plus tomber dans la caricature.
Non, c'est vrai, mais celle de Johnny notamment, qui est magnifique sur les hauteurs, a visiblement très très bien tenu.
Apparemment, il l'avait ouverte notamment pour l'ouragan José.
Franceinter.fr, toujours, ne sommes-nous pas tous responsables pour ces changements climatiques en augmentation? Peut-on toujours accuser le gouvernement, l'administration et les autres? Peut-être faut-il enfin nous remettre en question. Ça vous plaît cette question, Corinne Lepage?
Oui, bien
cette remarque.
Oui, tout à fait. Moi, je le disais tout à l'heure, je milite pour une déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité. Parce que je pense qu'à l'heure où nous en sommes maintenant, si on n'est pas capable de considérer que nous avons, alors à des échelles différentes, naturellement, multinationale ou les États-Unis n'a pas la même responsabilité que Madame Dupont, mais que nous avons tous notre part dans ce qui est en train de se passer et que nous pouvons finalement rendre l'avenir totalement impossible à nos enfants et à nos petits-enfants, on va avoir beaucoup de difficultés. Voilà. Donc moi, je pense que chaque fois qu'on peut rappeler qu'il y a une responsabilité de chacun, proportionnée évidemment, pas tout mélanger, que nous avons chacun des efforts à faire et que c'est pas pour demain matin, que c'est pour hier, je pense que c'est bien.
Philippe Lévesque, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain des gens en parler du réchauffement climatique, d'environnement, etc. On imagine que c'est un peu compliqué quand on est là devant les débris de sa maison, mais néanmoins quand même, est-ce que ce sont des interrogations qui viennent dans ces moments-là?
Ils en parlent souvent avant, et pas forcément avec le mot réchauffement compliqué, qui est un mot extrêmement compliqué, mais en disant autrefois il y avait...
Mais le réchauffement est compliqué.
Le réchauffement est compliqué. Ils en parlent avec leurs mots. Autrefois il y avait de l'eau, où il n'y avait pas tant de cyclones, etc. Donc enfin, CAIRF et d'autres ONG, bien sûr, font un très très gros travail de prévention, souvent auprès des femmes, qui sont d'ailleurs souvent, il y a davantage de victimes femmes que de victimes hommes dans ce type de situation, donc il y a un aspect genré aux catastrophes naturelles.
Pourquoi,
qui sont tout sauf naturelles. Parce que savoir nager, mesdames, c'est un privilège de femme éduquée, libre, etc. Donc, et les vêtements aussi peuvent y contribuer, ça c'est notre aspect. Donc il y a un travail auprès des femmes, auprès de prévention, et beaucoup dans les écoles. J'étais l'année dernière dans les écoles à Madagascar, puisqu'il y a l'arc Caraïbe et l'océan Indien. Et à Madagascar, on apprend aux enfants à identifier les drapeaux. Le bleu, attention, il va se passer quelque chose. Le jaune, il faut rentrer. Le rouge, il ne faut pas sortir. Et on passe beaucoup par les enfants pour toucher les parents. Ou bien on va leur apprendre aussi, bien sûr, mais vous le savez, à planter davantage de mangroves ou des digues par vent, à sceller les puits, à essayer de prévenir un petit peu. Donc il y a beaucoup de réponses à l'anticipation. Madame Lepage le disait fort justement, la responsabilité, elle est chez nous, chez nos dirigeants et d'abord dans nos pays.
Et j'ai une question subsidiaire, tiens d'ailleurs. Est-ce qu'il faudrait changer ces fameuses normes catégorie 5, 6, après tout, parce qu'on a explosé les compteurs, là pareil pour les fameuses alertes violettes. Est-ce qu'il faut revoir tout ça au regard de ce que l'on sait aujourd'hui, Axel Devezac peut-être?
Mais juste avant, quand vous dites, il y a un point qui est très important, je crois, à mentionner. Je voudrais quand même qu'on en parle sur est-ce que les gens parlent de développement durable après la catastrophe. Il faut réaliser que ces populations qui ont été touchées, elles ont vécu un traumatisme absolument abominable. Alors, on parle beaucoup d'habitation, de reconstruction, mais il va falloir faire un travail colossal auprès de ces personnes pour qu'elles arrivent à reprendre le cours de leur vie. J'entendais encore tout à l'heure des gens qui disaient « mais je veux partir, je veux partir, je veux partir ». La violence de ce qu'ils ont subi est absolument colossale. Donc, c'est pas encore le temps pour eux d'avoir ce recul. Voilà. Donc, c'est vraiment important parce que c'est ce travail-là qui va falloir faire auprès d'eux, d'abord aussi, et en même temps que la reconstruction physique de leur quotidien.
Corinne Lepage,
si je peux dire juste un petit mot dans la suite de ce que vous venez de dire qui me paraît extrêmement juste. Ça veut dire que quand on dit maintien des gens sur les territoires, conquête des territoires, ça passe d'abord par la conscience. C'est-à-dire que si on ne donne pas aux gens les moyens psychologiques de pouvoir s'adapter à un cadre de vie qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire en leur donnant de nouvelles formes de sécurité, ça ne marchera jamais. Les gens y partiront et c'est tout à fait humain, c'est normal. Donc si on veut continuer à habiter l'espace, pas tous les espaces, parce qu'il y en a certains, de toute façon, il ne faudra pas les habiter, mais les autres, ça passe par un effort psychologique extrêmement important et il y a des investissements considérables à faire dans ce domaine dont on ne parle quasiment jamais.
Jamais.
Et j'imagine que quand on construit, quand on remet des maisons en état, mais vous leur dites ça, voilà aujourd'hui, voilà ce que ça empêchera. Désormais, on construit de telle manière, si un Irma, une Irma repassait à nouveau, voilà ce que vous éviterez, ça tiendra. J'imagine que tout ça, il faut le dire.
Alors, faut être
notamment
très
pour
modeste,
que les gens restent.
On garantit pas que ça tiendra face à la violence des éléments et de ce qu'on subit. On garantit pas. En revanche, effectivement, on apprend à construire différemment. On fait des maisons modèles pour essayer de construire des toits avec quatre bords au lieu de deux, des choses comme ça qui sont pas chères pour les gens qui n'ont effectivement pas les moyens de faire construire des maisons en béton. Et surtout, il y a tout ce travail aussi de prévention que Philippe citait dans les écoles et ailleurs pour avoir les bons gestes et être bien plus vigilant à l'avenir.
Mais c'est en partie pour ça que je parlais de changer les normes et les numéros, parce qu'en fonction effectivement d'une couleur et d'un numéro, il y a tel type à la fois de construction qui sont obligatoires, il y a tel type de prévention qui est obligatoire. Si on rechange ces échelles-là, on peut rechanger peut-être aussi la prévention, non, Sandy Dauphin ?
Alors moi j'ai une question justement à poser à ce propos, puisqu'on parle beaucoup de prise de conscience, et on a vu que Emmanuel Macron aujourd'hui a annoncé sa réforme pour le logement, et il a dit qu'il fallait assouplir les normes environnementale. Donc je voulais demander par exemple à Madame Lepage, qui vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a pas
une
contradiction?
Je soutiens Emmanuel Macron, je ne suis pas obligée de tout soutenir non plus. Hein.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à annoncer
qu'on
va assouplir les normes environnementales?
Évidemment, il y a une contradiction évidente. Et moi je ne comprends pas que d'un côté on dise on va mettre des milliards d'euros, puisque c'est dans le programme d'Emmanuel Macron, pour rénover les bâtiments de manière à les
consommer
à
moins d'énergie,
la consommation énergétique, et dans le même temps de dire les nouveaux qu'on construit, on va les construire de manière allégée, ou alors sur des territoires qui jusqu'à présent étaient interdits à la construction, je pense aux zones inondables. Mais dans les deux cas de figure, pour moi c'est absolument incompréhensible et je ne soutiens absolument pas ce type de démarche.
Allez-y, Philippe Lévesque, pardon.
Des normes adaptables selon les territoires, justement. Il me semble que les normes de construction peuvent être différentes en Alsace et à Saint-Martin. Et j'espère qu'elles ne sont pas toutes les mêmes sur tout le territoire de l'Union européenne, de la Baltique à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a ce genre de choses auxquelles il faut faire attention aussi. Mais ça passe aussi par la reconquête du travail communautaire. On l'a un petit peu évoqué. Donc chez nous, chez CAIR, nous travaillons aussi beaucoup sur ce travail communautaire. Que les gens se responsabilisent aussi, donc entretenir des canaux, reboiser, et ça sont des choses qui peuvent être à la portée de populations très pauvres et qui ont un énorme impact quand c'est bien fait.
Arnaud Schneeweis, vous souhaitiez intervenir, on vous écoute.
Oui, je crois que la question de la culture de la prévention est essentielle dans notre pays, et pas seulement dans les îles. On l'a vu lors des inondations il y a un an dans la région de Melun, qui ont été des inondations historiques. On a eu aussi l'année précédente les terribles inondations du côté de Cannes, Mandelieu, la Napoule. Il y a un problème de responsabilisation de nos élus locaux, c'est-à-dire que on a besoin de systématiser sur tout le territoire des plans de prévention des risques naturels qui doivent être conçus en étroite coordination entre le préfet et les élus locaux. Mais trop souvent, on constate que les élus locaux ont été trop complaisants en voulant faire plaisir à leurs concitoyens, sans doute.
On disait à l'instant sur la faute sur mer, par exemple.
Dans des zones dangereuses, dans des zones inondables, et en se disant, depuis 50 ans, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, et puis, un jour, la catastrophe naturelle arrive. Oui. Donc, il y a une vraie culture de la prévention à développer dans notre pays.
Et ce qui prouve qu'on a encore l'occasion de faire un gros téléphone sonne pour en parler. On espère que ce ne sera pas après une catastrophe. Je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, d'abord vous remercier tous, évidemment, d'avoir participé à ce téléphone sonne, et vous redire que Radio France émet depuis hier sur la fréquence 91.1 à Saint-Martin. La radio s'appelle Urgence Info Île-du-Nord. Elle émet en français, en anglais, en créole aussi. Les informations sur les sinistrés, pour les sinistrés, sont là. On imagine qu'ils ont autre chose à faire que nous écouter en ce moment à Saint-Martin. Mais si vous connaissez des gens là-bas, dites-leur bien de se brancher sur cette fréquence, parce qu'elle est vraiment faite pour eux. Voilà, merci à tous.